De Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, Jean-Luc Mélenchon x12 en chair et en os à Lille et en hologramme dans 11 salles de France pour son dernier grand meeting avant le premier tour de la présidentielle. Troisième homme ou qualifié, ça peut se jouer à pas grand chose, dit-il, on va l'entendre. Avant le grand entretien, Nicolas, et ce matin la parole est à...
Est à Éric Zemmour, le candidat du parti Reconquête. Vous le savez, amis auditeurs, dans ces grands entretiens, vous avez la parole pour dialoguer avec notre invité. Donc le standard 01 45 24 7000 ou l'application de France Inter. Je vous attends, vous avez la parole dans une grosse vingtaine de minutes.
Des viols comme armes et crimes de guerre commis par les Russes en Ukraine. Les récits se multiplient après le retrait des troupes autour de Kiev. Dans ce journal aussi, la folie anti-Covid en Chine. La répression va trop loin, jugent les Chinois après avoir vu une vidéo édifiante. Des prêts en francs suisses à rembourser en euros. Les emprunteurs de la BNP vont obtenir gain de cause. Et puis au cinéma cette semaine, des sentiments filmés par un virtuose, conte du hasard et autres fantaisies signé Hamaguchi. Voilà qui va nous faire du bien.
France Inter.
Il se projette là où il n'est pas, via ses hologrammes, dans 11 villes de France hier soir et au second tour de la présidentielle face à Emmanuel Macron quand les sondages le donnent troisième. Jean-Luc Mélenchon, bien présent à Lille, en tout cas dernier gros meeting en multidiffusion, dernier coup contre les duettistes Macron-Le Pen et dernier appel à la mobilisation, Laurence Perron.
Il y a là comme une ambiance d'avant concert de rock sur le parvis du Grand Palais.
On veut le soutenir à fond, on espère vraiment qu'il va passer au second tour.
C'est votre premier vote ?
Oui, premier vote, parce que j'ai que 21 ans et je suis passée à ça en 2017.
Aux jeunes nombreux dans la salle, Jean-Luc Mélenchon promet une allocation d'autonomie, la suppression de Parcoursup.
Les jeunes gens qui sont là, moi je suis leur voix.
L'occasion de revenir aussi sur la polémique apprentissage de la 5e qui l'oppose à Emmanuel Macron.
Il répond, c'est pas vrai, je l'ai pas dit. Comment ça ? Comment ça, tu l'as pas dit ? Ben bien sûr que si, on t'a même filmé. On va faire découvrir l'entreprise, comme ils disent. Parce que dans l'entreprise, vous savez comme moi comment ça se passe. Vous vous mettez contre un mur et le savoir dégouline en vous.
Le combat pour la dignité animale lui permet d'éreinter Marine Le Pen.
Mais alors, l'ami des chats, là, sur les fermes-usines, parce que nous, on va les fermer. Qu'est-ce qu'elle dit ? Rien !
Il tend la main au fâché pas facho, épargne ses concurrents de gauche.
Moi, ça fait 16 mois que je suis en campagne. 16 mois que je me suis engueulé avec personne à gauche.
Cite l'International.
Je sais, je sens que le monde est en train de changer de base.
Avant d'enjoindre la salle à chanter plutôt la Marseillaise.
Tous ensemble avec ardeur.
Moins rock'n'roll, mais tellement plus présidentiel.
Et lui aussi se voyait au second tour, sans doute un peu moins maintenant. Éric Zemmour pense donc à l'après, pourquoi pas aux législatives. En cas d'échec, je n'abandonnerai pas les gens qui m'ont fait confiance, disait-il hier soir sur France 2. Et dans cette campagne, il est un sujet qui ne fait plus recette, c'est le chômage. Dans une France post-pandémie, où les intentions d'embauche n'ont jamais été aussi hautes. 3 millions de recrutements prévus cette année selon Pôle emploi. Une entreprise sur trois a des projets. Encore faut-il trouver des candidats, comme chez ce sous-traitant du secteur de l'aéronautique à Toulouse, où s'est rendu Hugo Charpentier.
Depuis plus de 70 ans, la société Coquille fabrique des pièces détachées, notamment pour Airbus. 76 salariés en temps normal, mais la crise Covid a entraîné une trentaine de licenciements. Désormais, ça repart, selon le patron Didier Coquille.
Aujourd'hui, on est revenu à une activité normale. On a rembauché 17 personnes et il en manque encore entre 3 et 5.
On recherche ici des ajusteurs, des magasiniers, des chargés d'affaires. Problème, l'entreprise rencontre des difficultés de recrutement.
C'est la plus grosse inquiétude parce que si on ne trouve pas, le client n'est pas servi. Et malheureusement, avec le travail qu'on a, on passe à côté d'opportunités énormes parce qu'on n'a pas le personnel.
Responsable des ressources humaines, Manon Privat tente de remédier à cette pénurie.
On a des difficultés en réalité depuis le redémarrage de l'activité, notamment lié au fait que beaucoup de salariés partis pour cause de plans sociaux se sont reclassés dans d'autres activités et puis certains autres ne veulent plus entendre spécialement parler de l'aéronautique.
Un personnel traumatisé par les conséquences sociales de la crise, l'entreprise est donc obligée de s'adapter.
Notre plus gros pari aujourd'hui, c'est d'accepter aussi de prendre des jeunes qui n'ont pas spécialement d'expérience pour former les salariés de demain.
Une situation qui impose aux entreprises de voir loin et donc de proposer des contrats durables, des CDI, dans la majorité des cas.
Et pour les salariés, la question du moment, c'est la hausse des salaires. Plus d'un millier d'employés d'Amazon en France ont débrayé quelques heures ces derniers jours. C'est une première. Ils prévoient de recommencer dans les 8 sites logistiques du groupe. Ils réclament une augmentation de 5%. Amazon en propose 3.
Il est 8h05, une minute d'image insoutenable au Conseil de sécurité de l'ONU hier.
Des fosses communes, des cadavres gisant dans la rue ou dans des caves. C'est Volodymyr Zelensky qui a fait diffuser la vidéo pour dénoncer les crimes de guerre russes et demandé l'exclusion de la Russie du Conseil de sécurité. Et parmi ces crimes, il y a les viols, impossibles à chiffrer, mais les preuves s'accumulent selon les autorités ukrainiennes. Et une photo, là aussi, témoigne de l'horreur, Virginie Pironon, prise à Boutcha après le retrait des troupes russes.
L'image montre les corps de trois femmes à moitié dissimulées sous une couverture. Les cadavres sont nus, partiellement brûlés. De quoi, pour les autorités ukrainiennes, alimenter les accusations de viol, comme cette conversation entre un soldat russe et sa mère, captée par les services de sécurité ukrainiens, lors de laquelle il accuse ses camarades.
Dans un village voisin, près d'ici, des garçons ont violé une femme, une adulte, et une fille de 16 ans. J'ai envie de fusiller ceux qui ont fait ça.
Katerina Cherepaha est présidente de la Strada Ukraine, une organisation des droits de l'homme qui a déjà documenté 4 dossiers, 6 viols au total, dans la région de Kiev ainsi qu'au sud du pays.
Il y a des cas où des enfants ont été violés sous les yeux de leur mère, de leurs parents. Parfois, ils ont été violés en même temps. Ceux qui ont souffert de ces viols vont avoir beaucoup de mal à témoigner. Ça va prendre du temps. Donc oui, c'est quelque chose qui doit être très sérieusement documenté pour ensuite mettre ceux qui sont coupables devant leurs responsabilités.
Mais en temps de guerre, il est quasi impossible de collecter des preuves. D'ailleurs, poursuit cette responsable, au moment même où nous parlons, des crimes continuent d'être perpétrés.
On l'a tué, torturé, violé. C'est une campagne délibérée qui a été menée à Boutcha, selon Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine. Et pour faire la lumière sur ces crimes de guerre et poursuivre leurs auteurs, la Cour pénale internationale est au travail depuis plusieurs semaines déjà, aidée par plusieurs pays, dont la France. Bertrand Galichet, qui propose notamment les services de 2 magistrats et d'une dizaine de gendarmes.
L'enquête de la Cour pénale internationale a pu commencer dès le début du mois de mars, quelques jours après l'attaque des troupes russes contre l'Ukraine. Plusieurs États, dont la France et d'autres pays de l'Union européenne, ont très tôt saisi le bureau du procureur de la CPI. L'institution avait besoin de moyens supplémentaires. Paris a rajouté 500 000 euros à sa contribution annuelle de plus de 13 millions, dont le versement a été anticipé. La France a parallèlement identifié les moyens nécessaires aux investigations en mettant à la disposition de la Cour pénale internationale des magistrats, des médecins légistes et des analystes. La Cour bénéficie également d'un d'informations et de renseignements recueillis par les Français. D'autres États travaillent sur ces possibles crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. L'Ukraine, bien sûr, mais aussi des pays d'Europe où sont arrivés en masse des réfugiés. L'unité de coopération judiciaire de l'Union européenne Eurojust facilite la coordination. La principale difficulté étant de recueillir des informations suffisamment étayées pour être intégrées aux procédures.
Voilà, enquête de la Cour pénale internationale, aide militaire de l'OTAN à l'Ukraine, il en sera question aujourd'hui. Fournir davantage de missiles anti-chars et de systèmes anti-aériens. Et nouvelles sanctions contre la Russie. Les États-Unis veulent y interdire tout nouvel investissement quand l'Europe va proposer à ses membres de se passer du charbon russe qui représente presque la moitié des importations dans l'Union. Enfin, loin de l'Ukraine, on parle aussi de massacres au Mali. Le Quai d'Orsay s'inquiète d'exactions massives perpétrées par des militaires maliens et des mercenaires du groupe russe Wagner dans le village de Moura, au centre du pays. 300 civils exécutés, selon Human Rights Watch, dans cette localité tenue par des djihadistes. Au rayon des images qui choquent, il y a aussi ce matin cette vidéo tournée en Chine qui illustre les dérives de la lutte anti-Covid en pleine reprise de l'épidémie. Accusé de s'être échappé d'un centre de quarantaine, un homme a eu le crâne rasé par des officiels. Les Chinois s'en indignent, Sébastien Berriot.
Ah, tu veux sortir quand même malgré l'épidémie? Tu veux sortir, mais on ne va pas te laisser partir.
L'homme qui s'exprime dans cette vidéo est un volontaire du comité de quartier dans un village de la province du Shandong. On voit clairement son brassard rouge officiel. Lui et son collègue viennent d'intercepter un habitant qui s'est échappé d'un centre de quarantaine. Et pour punir cet homme, eh bien les deux officiels sont en train de raser son crâne avec une tondeuse. L'habitant au sol se débat, mais sans pouvoir empêcher cette opération punitive. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, provoquant la colère de nombreux internautes chinois dénonçant les abus commis par les autorités. Ça donne un goût de révolution culturelle, écrit un internaute, allusion à la période de persécution que la Chine a connue dans les années 70. Une autre personne évoque le pouvoir sans limite des petits fonctionnaires depuis le début de la crise sanitaire. La vidéo a poussé le gouvernement local à réagir. Il assure que les deux hommes qui ont rasé l'habitant ne sont pas des fonctionnaires et qu'une enquête enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités dans ce genre de dérive liée à l'épidémie de Covid et que les Chinois ont de plus en plus de mal à supporter. Pékin, Sébastien Berriot, France Inter.
En France, ce reste le pic de la vague BA2, le sous-variant d'Omicron. Les contaminations n'augmentent plus, elles ont même tendance à baisser. 136 000 cas en moyenne ces 7 derniers jours, mais le nombre de malades hospitalisés augmente encore, y compris en soins critiques. Encore des bactéries dans des produits de consommation. Cette fois, ce sont des fromages de la marque Grain d'Orge, un Brie, deux Coulommiers et deux Normandville. Rappelez, car ils pourraient contenir des Listeria.
France Inter, il est 8h11. C'était une bonne affaire proposée par la BNP à la fin des années 2000.
Un emprunt en francs-suisses, théoriquement d'une stabilité à toute épreuve, mais à rembourser en euros. Seulement voilà, le cours du franc-suisse a monté et 4600 emprunteurs ont dû rembourser des montants supérieurs à leurs prêts. C'était le scandale Helvet Immo, 11 ans de procédure et une décision de la Cour de cassation qui soulage les emprunteurs et fera date dans le secteur bancaire. La justice, Ariane Grissel, estime que la BNP a manqué à son devoir d'informer ses clients.
Pour la Cour de cassation, la banque n'a pas suffisamment informé ses clients sur les risques encourus. Ces arrêts auront des conséquences pour BNP Paribas Personnel Finance, mais aussi pour les autres établissements bancaires. L'avocat Charles Constantin-Vallée représente plusieurs centaines d'emprunteurs dans ce dossier.
La Cour de cassation, par ces arrêts, vient préciser les obligations d'information qui incombent aux banques. Ce qui veut dire qu'à partir de ces arrêts, l'ensemble des banques vont devoir expliciter aux consommateurs l'ensemble des risques et des conséquences concrètes que les prêts, notamment en francs suisses, impliquent pour ses emprunteurs.
Des conséquences qui, dans ce dossier, se sont avérées lourdes avec l'évolution du cours du franc suisse. Ainsi, un client qui avait emprunté 143 000 euros s'est retrouvé, 8 ans plus tard, à devoir rembourser 234 000 euros. Les emprunteurs vont pouvoir désormais saisir individuellement la justice pour faire annuler leur prêt. Charles Constantin-Vallée.
Par exemple, celui qui a emprunté à nouveau 140 000 euros ne doit rembourser à la banque que 140 000 euros. L'idée, c'est de replacer les consommateurs dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés sans avoir emprunté ce prêt. Car, mal informés, ils n'ont pas pu évaluer le risque. Et n'ayant pas pu évaluer le risque, ils n'ont pas pu prendre la mesure pour leur patrimoine de ce type d'emprunt. Et c'est ça qu'on reproche aux banques.
Chaque dossier doit maintenant être examiné au cas par cas. La Cour de cassation précise qu'il n'y a pas de délai de prescription dans ce domaine.
Qui a tué Thomas Sankara, le président du Burkina Faso en 1987. Après 6 mois d'audience, la justice burkinabé rendra son verdict aujourd'hui. 30 ans de prison ont été requis contre Blaise Compaoré qui avait pris le pouvoir après cet assassinat. Des billes de plastique dans les champs, sur le bitume et dans les bassins de rétention d'eau. Nous voici en Belgique, à présent commune d'Aucassine, en région wallonne, polluée par les usines de pétrochimie du secteur. Les ONG Célia Kyré demandent à l'Europe de légiférer sur cette pollution qui n'est pas un cas unique. Vous êtes rendu sur place.
Je vous invite à vraiment regarder le sol. Vous en trouvez énormément.
Au bord d'un bassin de rétention d'eau, Arnaud Guérard, élu à Écosine, ramasse à la main ces petites billes de plastique qui inondent sa commune. Il a encore été alerté par des agriculteurs.
Que faire de ces déchets qui se retrouvent dans des cultures qui sont destinées à l'alimentation? On se situe à plus de 8 km en aval du site industriel et donc ça témoigne d'une dissémination dans l'environnement de tous ces composés plastiques.
Ces petites billes de plastique proviennent des usines pétrochimiques situées à moins de 10 km. Elles ont pu tomber des camions de livraison. Des sacs ont peut-être été éventrés. En tout cas, les industriels sont responsables pour Gaël O de l'ONG Softrider Foundation.
Ça fait plus de 10 ans, donc on est assez agacé de voir cette pollution qui perdure, l'absence de mesures au niveau européen. Et on appelle vraiment à des mesures qui soient contraignantes pour que cette pollution cesse en fait. Ici, on est en Belgique, mais ça se passe en France, ça se passe en Espagne, ça se passe en mer du Nord.
Et en effet, ces petites billes de plastique sur lesquelles s'accrochent des polluants ou des bactéries continueront leur voyage dans la mer du Nord avant d'atterrir dans le ventre des poissons. Selon l'ONG Surfrider, 160 000 tonnes de granulés de plastique industriel sont perdues chaque année dans l'Union européenne.
Célia Kyré, enfin de la délicatesse, on en a bien besoin à l'affiche au cinéma cette semaine. Conte du hasard et autres fantaisies du japonais Ryusuke Hamaguchi, réalisateur de Drive My Car, récompensé à Cannes et aux Oscars. Cette fois-ci, Alexis de Meyer Hamaguchi nous propose 3 histoires de sentiments qu'il filme en virtuose.
3 contes de fées modernes qui n'ont aucun lien entre eux et qui composent pourtant un tableau cohérent. Hamaguchi ouvre son film avec un improbable triangle amoureux sur fond d'amitié féminine. Le deuxième long métrage, peut-être le plus abouti, détaille une tentative de revenge porn avec un éminent professeur éclaboussé par la vague MeToo. Enfin, l'ultime fantaisie se déroule dans un futur proche où un virus informatique a contraint tous les humains à changer d'identité. Inutile ici de rechercher le réalisme des situations, les multiples concours de circonstances n'ont pas vocation à être crédibles. Comme dans les contes classiques, chaque coïncidence est là pour servir le récit en vue d'un dénouement qui pousse à la réflexion. Après Drive My Car, Hamaguchi réaffirme son art du détail et sa grande sensibilité au service, cette fois-ci, d'un film profondément féministe. Le cinéaste japonais impressionne une nouvelle fois par la précision de sa direction d'acteur et par son sens du cadre. La beauté de ses plans ne doit évidemment rien au hasard.
Voilà, Contes du hasard et autres fantaisies. Vous savez quoi, Nicolas ? C'est un film inter.
Ça ne m'étonne pas. Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Depuis 30 ans, les experts Euromaster sont au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Et Marie-Pierre, c'est très nuageux sur les trois quarts du pays dès ce matin.
Et oui, car la perturbation d'hier, Nicolas, a glissé vers le sud et ce matin, on la retrouve des Pyrénées à la Nouvelle-Aquitaine, au Massif central, à l'ouest des Vosges, à l'Alsace, avec un ciel donc très nuageux, des pluies assez fréquentes. En revanche, du Languedoc à la région PACA jusqu'aux Alpes à la Corse, vous passerez une matinée ensoleillée. Sur le reste du pays, on a quand même quelques éclaircies timides, des Pays de la Loire à l'Île-de-France, à la Lorraine, mais une nouvelle dépression est en train débarquer par la Manche avec des pluies et du vent de la Bretagne et Hauts-de-France aux Ardennes avec tous ces nuages et bien et ce flux océanique. On a que quelques petites gelées dans le sud comme à Bormes-les-Mimosas où il fait moins 2, 2 à Millau, 5 à Ajaccio, 9 à Nancy. Vous avez dit ça, Dunkerque est très à Perpignan.
Et peu d'évolution cet après-midi.
Et oui, les pluies arrivées par la Manche vont gagner les Pays de la Loire, la Normandie, l'ouest de l'Île-de-France aux Ardennes avec un vent qui va se renforcer jusqu'à 90 km par heure quand même près de la Manche et jusqu'à 50 à l'est des Pays de la Loire à l'Île-de-France aux Ardennes. Et en cours de journée, les nuages finiront par assombrir le ciel des Alpes avec de la neige des 1800 mètres et la Corse, elle, va se retrouver, attention, sous une nouvelle dépression qui vient des Baléares qui apportera de nouvelles pluies et surtout du vent. Et cet après-midi, on aura des températures à peine de saison, Nicolas. 9 à Aurillac seulement, 13 à Nancy et à Rouen. Vous aurez 14 à Nantes comme à Bordeaux. Il fera 15 à Paris comme à Nice ou Marseille. Et ça montera jusqu'à 18 à Cavaillon.
Et ben voilà, c'est fait. Merci Marie-Pierre Planchon. France Inter, 8h18.